la demi, vous écoutez le Mag du Tarn sur CFM Radio. Bonjour à tous, c'est Jacques. Dans le coup de projecteur du jour, si on a le temps et un coup de projecteur à suivre en seconde partie d'émission, je vous parle de la collecte de plastique agricole usagé organisée dans le Tarn par la Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole, une opération gratuite et qui est destinée aux agriculteurs tarnais, qu'ils soient en CUMA ou non. Et puis, avec moi en studio dans quelques minutes, Ignace Fabiani, qui est un comédien installé sur notre pays. Il vit et habite à Vaour. Il vient nous parler de son spectacle intitulé « Face aux collines du Rwanda » qu'il jouera demain et après-demain après-midi dans le cadre des projets pédagogiques du collège Valserou de Cordes-sur-Ciel. À savoir que dans quelques jours, ce sera le 7 avril exactement, nous commémorerons le génocide rwandais qui d'avril 1994 à juillet 1994 également a vu près de 800 000 Rwandais, entre 800 000 et 1 million de Rwandais perdre la vie dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Avant d'en parler avec Ignace, j'aimerais que l'on écoute un morceau de Gaël Faye, qui est d'origine rwandaise et dont pas mal d'écrits, que ce soit dans ses œuvres littéraires, poétiques ou encore musicales, nous interpellent et nous intéressent à ce petit pays aux mille collines. On écoute Gaël Faye, le titre Kibuka.
Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. Un million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit. À se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka, je rêve de vous. Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka.
Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
Tuzahora, tubashimira, tubazirikana, tubibuka, mubihe byiza twagiranye. Tuzahora, tubahesha agaciro, tubibuka n'ubupfura. Ubaranga. Je rêve de vous, Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka, je rêve de vous. Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka.
Je rêve de vous, vous mes lumières invaincues. Mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres. Je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Je rêve de vous, vous mes lumières invaincues. Mon souvenir, mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres.
Drôle hein, pour démarrer le Mag du Tarn, c'était Gaël Faye que l'on écoute ici avec Kuibuka, un titre que l'on retrouve sur son dernier album Lundi Méchant. Parce que le thème que l'on va aborder aujourd'hui dans le Mag du Tarn, il n'est pas forcément drôle non plus. On va parler du Rwanda, hein, le pays d'origine de Gaël Faye que l'on vient d'écouter, le pays aux mille collines et auquel nous intéresse Ignace Fabiani dans son spectacle Face aux collines du Rwanda, qui fera l'objet d'un spectacle débat et discussion aussi avec les élèves du collège Valsirou de Cordes-sur-Ciel demain après-midi. Et vendredi également, Ignace est avec nous dans le Mag du Tarn. Salut Ignace.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous intéresser à ce petit pays, comme on le surnomme, d'Afrique de l'Est. Un spectacle, on va dire, autobiographique, dans le sens où tu nous racontes en résumé un stage hein, que tu as fait au sein d'une ONG qui venait en aide, si je me souviens bien, aux jeunes de Kigali, la capitale du Rwanda. C'était en quelle année que tu allais là-bas?
Donc, moi, j'y suis allé la première fois en 2006 pour faire effectivement un stage de fin d'études. Avec des jeunes qui vivaient dans la rue à Kigali. Et c'est vrai que ce stage, il m'a pas mal bouleversé. Il m'a permis de vraiment toucher du doigt aussi le courage aussi de ces jeunes qui étaient dans la rue. Pas forcément lié à spécialement l'histoire du Rwanda déjà, mais juste à l'histoire de ces jeunes qui tous les jours, ils trimaient dans la rue. En même temps, ils étaient avec une énergie un peu hors norme, surtout quand on est un petit jeune de 20 ans français qu'on débarque dans un pays comme ça et qu'on découvre cette énergie-là. Et depuis, j'avais toujours rêvé de trouver une manière de raconter cette histoire. J'y suis retourné en 2009 pour retrouver ces jeunes et voir un petit peu ce qu'ils étaient devenus. Et puis, j'y suis retourné en 2017, vraiment là, dans l'idée d'en faire un spectacle.
D'en faire le spectacle, oui.
Pour pouvoir sentir à nouveau qu'est-ce qui était devenu ce pays aussi, parce que je ne me sentais pas de faire un spectacle sur un pays que j'avais connu il y a 15 ans. Je voulais faire un spectacle aussi sur le Rwanda d'aujourd'hui. Et puis, pour enregistrer des ambiances sonores qui peuplent en fait, le spectacle. Donc, c'est effectivement pas tout à fait autobiographique parce que j'ai pris des libertés avec le réel, mais c'est très inspiré de la réalité, de mon expérience là-bas.
Ton spectacle démarre par une contextualisation, si je me souviens bien, autant géographique que historique. Est-ce que tu peux nous parler et nous présenter brièvement, je sais que c'est difficile, mais parlons un peu du Rwanda en résumé, l'histoire de ce pays, on va dire avant 1994, parce que ça permet vraiment de comprendre aussi les raisons qui ont poussé à ce génocide en quelques mois, quoi.
Donc, faut voir que le Rwanda, c'est un petit pays, comme on le dit souvent, c'est-à-dire grand à peu près comme la taille de la Bretagne, mais qui est extrêmement peuplé. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique au niveau densité au kilomètre carré. Et c'est un pays qui est entouré par deux gros pays, la Tanzanie, le Congo, un pays moyen, l'Ouganda, et puis un autre tout petit pays, le Burundi, donc qui est à côté. Et le Rwanda, c'est un pays enclavé, donc il n'y a pas la mer. Ça veut dire qu'ils ont eu des rapports, on va dire, avec les Occidentaux assez tardivement, puisqu'ils n'ont pas été pillés pour l'esclavage comme tous les pays côtiers. Et les premiers Occidentaux qui sont arrivés, c'était des explorateurs qui cherchaient les sources du Nil parce qu'il y avait beaucoup d'explorateurs à ce moment-là qui voulaient trouver où étaient les fameuses sources du Nil. Et en remontant, ils sont arrivés jusqu'à ces collines, ces montagnes du Rwanda. Et les premiers, c'était des Allemands. Et donc, à l'époque, c'est devenu une colonie allemande, mais ça n'avait de colonie que le nom.
Que le nom, ouais.
Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'Allemands qui étaient là-bas. Et après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu ses colonies et qu'elles ont été redivisées entre les autres pays occidentaux, c'est la Belgique qui a hérité du Rwanda. Parce que les Belges étaient déjà au Congo, comme c'était le pays voisin, ils ont hérité du Burundi et du Rwanda.
J'aime bien cette manière où on le présentait dans l'histoire, ils héritent d'un pays, c'est le protectorat en plus.
Et sauf que dans ce pays-là, évidemment, la vie elle n'a pas commencé au moment de l'arrivée des Allemands ni des Belges. Le Rwanda, c'était un pays où il y avait des clans. Et donc, c'était des clans régionaux. Et dans chaque clan régional, il y avait trois groupes principaux qui étaient les Hutus, qui étaient plutôt les agriculteurs. Il y avait les Tutsis, qui étaient plutôt les éleveurs. Et puis, il y avait les Twa, qui étaient plutôt des cueilleurs artisans, qu'on associe parfois à des pygmées.
Ah, des pygmées, oui.
Voilà. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent d'ethnie Hutu ou d'ethnie Tutsi, alors qu'à l'époque, c'était plus flou parce que c'était des gens qui parlaient la même langue, qui avaient la même religion, qu'il y avait des mariages entre les deux. Et donc, c'était plus des catégories socio-professionnelles. Mais en fonction des clans, il y avait des clans où il y avait une majorité de Hutu, il y avait des clans où il y avait des majorités Tutsi, puis il y avait des clans complètement mélangés. C'était assez mélangé. Et toutes les guerres qui existaient dans le Rwanda précolonial, c'était des guerres entre les clans. Donc, c'est-à-dire que le clan de Cordes, avec ses Hutus, ses Tutsis et ses Twa, il faisait la guerre au clan de Vaour. avec ces Hutus, ces Tutsis, ces Toi de Vahour. Et le plus important, c'était pas est-ce que je suis Hutu, est-ce que je suis Tutsi, c'était est-ce que je suis de Corde ou est-ce que je suis de Vahour.
Et ensuite, avec, on va dire, petit, voilà, la avec l'arrivée belge.
De la colonisation. En fait, il y a un groupe de Tutsis qui a pris le pouvoir sur un clan, et ce clan-là a pris le pouvoir sur le reste du Rwanda. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelques Tutsis qui dirigeaient le Rwanda, mais la majorité des Tutsis ne dirigeaient rien du tout, ils étaient dirigés par ce clan-là. Et donc, quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont vu ce clan, et avec ces Tutsis qui dirigeaient un petit peu, et eux, ils ont tout de suite simplifié, schématisé, en disant, bah, les Tutsis, ils sont différents, en fait, ils sont nés pour régner. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est peut-être même des Blancs à peau noire, enfin voilà, tout le racisme colonial qui existait. Et puis, ils ont dit, bah, si nous, on contrôle ces Tutsis, et qu'eux-mêmes, ils contrôlent tout le reste du Rwanda, ça va faciliter le diviser pour mieux régner, et puis de pouvoir imposer. Donc, la Belgique, avec l'aide de l'Église catholique, ils ont vraiment mis en place ce système au Rwanda. Et une des choses symboliques qu'ils ont mis en place en 1932, c'est la carte d'identité où il fallait choisir est-ce que les gens étaient Hutu et Tutsi.
Et c'était marqué sur la carte d'identité comme tel.
Et c'était marqué à partir de ce moment-là sur la carte d'identité. Et il faut voir qu'à ce moment-là, ce qui montre bien que ce n'était pas si simple, c'est qu'il y a énormément de gens, ils n'étaient pas capables de dire s'ils étaient Hutu et Tutsi. Parce que certains, ils avaient des stéréotypes physiques caractéristiques, le Tutsi serait grand, le Hutu serait petit, etc. Mais il y en a plein d'autres qui rentraient au milieu, ils étaient ni l'un ni l'autre. Donc à un moment, le colonisateur belge, il a dit, bon, on va trancher, ceux qui ont moins de 10 vaches, ils sont Hutu, ceux qui ont plus de 10 vaches, ils sont Tutsi. Évidemment, en 1932, on ne sait pas que 80 ans plus tard, parce que ton arrière-arrière-grand-père avait 9 vaches, tu vas être Hutu et tu vas participer au génocide, ou parce que ton arrière-arrière-grand-père, il avait 11 vaches, tu vas être Tutsi et tu vas te faire tuer dans le génocide. Donc c'est sûr que voilà, à un moment, quand on fige une histoire qui n'est pas la nôtre, eh ben, on ne peut pas savoir les conséquences que ça a, mais c'est sûr que petit à petit, les gens après se sont aussi reconnus comme tels. Les Hutus, avant, ils disaient, bah, moi, je viens de Corde. Maintenant, ils disaient, non, non, le plus important, c'est que je suis Hutu. Et avec les Hutus de Vahour et de Corde, eh ben, on va se mettre ensemble pour récolter, demander nos droits, etc., contre les Tutsis. Donc voilà, petit à petit, ça s'est divisé avec une ligne de fracture, Hutu, Tutsi. Et les Tutsis avaient gardé le pouvoir jusqu'à à peu près, on va dire, la fin de la colonisation. Et à ce moment-là, le ressentiment Hutu montait de plus en plus. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir avec un retournement d'alliance, puisque la Belgique, tout d'un coup, en voyant les Tutsis qui avaient le pouvoir vouloir l'indépendance, ils ont décidé de soutenir les Hutus. Les Hutus. Bon, c'est pas évident de résumer l'histoire d'un pays, c'est sûr, en quelques minutes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, les Hutus ont pris le pouvoir et ils ont utilisé le Tutsi comme bouc émissaire, en disant à chaque fois qu'il y avait un problème. Et ça a été appuyé par leur allié belge, puis par leur allié français, parce qu'à partir des années 75, la France a commencé à essayer de s'implanter au Rwanda avec des accords commerciaux, des accords de coopération entre la gendarmerie, etc.
Notamment, oui. Alors, les raisons qui aboutissent au génocide sont très vastes à présenter ici dans ce magazine. Mais en tout cas, un génocide démarre au début des années 90. En 1994, là, ça atteint vraiment son apogée, hein, avec en quelques mois des centaines de milliers de personnes qui trouvent la mort. Et toi, jeune fringant, décide d'y aller une dizaine d'années plus tard pour y vivre au milieu de la population. Et tu le racontes presque au début et en préambule de ton spectacle. On écoute un extrait.
Umunyabwira asiga icyamuzanye. L'homme pressé oublie l'objet de sa visite.
Bienvenue au Rwanda, Joseph. Béatrice, la directrice du centre Inzu, m'attend à l'aéroport. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je vous amène à l'auberge où vous allez dormir. Ah bon? À l'auberge? Mais je pensais que j'allais dormir dans le centre, avec les jeunes. Ah non, Joseph, ça, c'est pas possible. Ces jeunes, ils sont quand même dangereux. Ils vont jamais accepter un blanc comme vous parmi eux. Bon, allons pour l'auberge et on verra plus tard. Sur la route, je découvre la ville par la vitre poussiéreuse du pick-up Toyota. Moi, je m'appelle Joseph. J'ai 24 ans et je suis venu ici, au Rwanda, à Kigali, il y a un mois, pour travailler dans le centre Inzu. Ce centre, il accueille des jeunes qui vivent ou ont vécu à la rue. Je cherche surtout à partager le quotidien des jeunes. Cuisine, foot, aller chercher de l'eau dans des gros bidons jaunes qu'on porte sur la tête. Après 10 jours de négociations, j'ai réussi à convaincre Béatrice, la directrice, que j'étais vraiment venu au Rwanda pour habiter avec les jeunes. Depuis, je dors au centre Inzu, dans une petite pièce abandonnée. Ce soir, pendant que des jeunes jouent au ping-pong, Je mange à côté de Snoop. Casquette ou bandeau sur la tête, bague au doigt, maillot de basket, il se laisse même pousser une petite barbichette. L'autre jour, il m'a expliqué comment il avait appris l'anglais. Depuis plusieurs années, il va assister dans un petit maquis à des projections de films de Bollywood. Ceux-ci sont en hindi, sous-titrés en anglais. Et un type, à côté de la télé, traduit au fur et à mesure en kinyarwanda. Un jour, Snoop s'est mis à venir avec un cahier, à recopier les mots à l'écran et à les mettre en lien avec ceux du traducteur. Pendant le repas, Snoop me demande « But Joseph, why did you come to Rwanda? C'est quoi ton projet ici? T'es pas juste là pour jouer au foot et manger avec nous. Les Bazungu, les Blancs, ils ont toujours un projet. C'est quoi le tien ?» Ben justement Snoop, mon projet, c'est de pas avoir de projet. C'est de partager le quotidien avec toi quoi. En fait, j'ai déjà fait des stages dans des assos au Togo, en Inde et j'ai l'impression que plus on a de responsabilités, moins on comprend les gens qu'on est censé aider. Alors cette fois, je me suis dit, je vais au Rwanda et cherche un stage où j'aide personne.
Et par contre, les gens t'aident parce que tu y apprends. Joseph, c'est toi, hein, on l'aura compris. Ignace Fabiani, tu y apprends un autre art de vivre, un positivisme, une débrouillardise aussi, notamment par le jeune Snoop là, dont tu nous parles et qui est un peu un personnage central dans ton spectacle.
Bah, c'est sûr que en faisant le spectacle, j'avais vraiment envie de rendre hommage aussi à ces jeunes qui étaient mes premiers enseignants quand j'étais là-bas au Rwanda. C'était pas évident parce que dans la société rwandaise, les jeunes qui vivent dans la rue, c'est les moins que rien. C'est le plus bas de l'échelle qu'on peut avoir. Ils sont méprisés par tout le monde. Et le blanc, malheureusement, il y a encore une culture quand même coloniale qui fait qu'il est assez haut dans l'échelle sociale. Et donc la rencontre entre le blanc et ce jeune qui vit dans la rue, généralement, elle se fait par le biais d'un jeune blanc qui arrive en costard-cravate ou alors au moins en 4x4 pour distribuer de la nourriture ou quoi. Et là, moi, j'avais vraiment envie de casser cette logique-là et d'être dans un rapport de fraternité, c'est-à-dire de vivre ensemble. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ensemble, comme on entend dans le petit extrait, en convaincant la directrice du centre que ça allait pouvoir se faire. Et ces jeunes, ils m'ont appris énormément de choses. D'abord, ils m'ont appris le kinyarwanda parce qu'ils ne parlaient pas très bien français. On entend Snoop, il parlait un petit peu anglais en allant voir des films de Bollywood. Voilà, vous imaginez que son anglais était très drôle, mais quand même limité. Aussi. Et donc, ils m'ont vraiment fait l'effort de m'apprendre le kinyarwanda. Et moi, j'ai fait l'effort d'apprendre, on va dire, je ne peux pas faire de philosophie, mais au moins toute la vie courante en kinyarwanda. Et puis, surtout, ce qu'ils m'ont témoigner, c'est aussi de l'amitié, de la compréhension de cette culture rwandaise. Et puis, effectivement, comme tu disais, j'étais touché par leur positivisme, c'est-à-dire par leur débrouillardise, leur envie de qu'il se passe quelque chose, que de pouvoir trouver un chemin de vie, quoi. De pouvoir, ils me disaient une fois, voilà, nous, on essaye juste d'arracher un bout de vie, quoi. Et ça, c'était précieux pour moi. Et aussi d'être dans un autre rythme, de prendre le temps de ralentir. Au Rwanda, j'ai vraiment découvert le temps élastique, quoi. Où on peut passer des heures juste assis sur un banc et être ensemble, et que être ensemble, bah c'est déjà une action en fait.
C'est déjà une action, c'est déjà bien. Et autre chose que tu découvres aussi, c'est le temps qu'il faut pour cicatriser des blessures. C'est-à-dire le génocide a eu lieu une dizaine d'années plus tôt, et par contre c'est toujours présent. Et en plus, on se rend compte de l'implication de tout le monde dans ce génocide-là, et pourtant des gens qui ont réappris à vivre ensemble.
C'est sûr qu'au moment où je suis parti en 2006, le génocide me paraissait déjà loin, alors que, comme tu dis, ça fait que 12 ans, c'était rien. Mais moi, j'avais une vingtaine d'années, je mesurais pas l'ampleur et l'impact que ça avait sur les gens. Et en plus, au début, je le sentais pas. Les gens en parlent pas forcément, mais je le sentais en filigrane, il était partout. Par exemple, les jeunes souvent me disaient « Est-ce que tes deux parents sont vivants ?» Je leur disais oui, ils disaient « Ah, c'est bon, t'as de la chance. » Ou ils me disaient « Est-ce que tu as des frères et sœurs ?» Je disais oui, et ils me disaient « Ils sont tous vivants aussi ?» Ils disaient « Oui ». Et donc voilà, dans les questions, on sentait que non, il s'était vécu quelque chose de terrible.
Et c'est encore plus prégnant lorsque le mois d'avril approche.
C'est encore plus prégnant, c'est sûr, lorsque le mois d'avril approche. Et là, j'ai eu la chance de vivre des temps de commémoration au Rwanda avec les jeunes et à leur demande, parce que j'avais vraiment fait le choix aussi de pas leur poser de questions sur les génocides, parce que j'ai compris quand même assez vite qu'ils étaient gênés par le fait que beaucoup de Blancs, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant le génocide, est-ce que toi t'es Hutu, t'es Tutsi, et moi j'avais fait le choix de pas leur demander s'ils étaient Hutu et Tutsi. Donc il y a des jeunes jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, Il y en a d'autres, ça paraît évident en fonction de ce qu'ils racontent et tout ça. Et puis, j'ai choisi de ne pas leur poser de questions sur le génocide si eux, ils ne m'en parlaient pas spontanément. Et certains se sont mis à m'en parler et ils m'ont invité à vivre ce temps de commémoration avec eux. Et c'est sûr que c'était très fort de pouvoir prendre un tout petit peu la mesure de ce qui s'est passé là-bas. Et puis, effectivement, cette question de revivre ensemble, c'est sûr que, pareil, on voit beaucoup d'ONG qui se rendent au Rwanda pour essayer d'apprendre aux gens comment faire pour vivre dans la paix et tout ça. Et moi, je me dis non, non, là, il faut aller au Rwanda, pas pour enseigner, mais pour apprendre. Parce que les gens, ils revivent ensemble, c'est pas un postulat philosophique, c'est la réalité. Quand tu habites dans le même village et que des gens de la colline d'en face, ils ont participé à tuer des membres de ta famille, mais que tu continues à les voir tous les jours, bah, tu revis ensemble. Ça veut pas dire que les gens, ils sont forcément pardonnés ou quoi, mais en tout cas, la vie, elle est là et ils sont pris par le quotidien, quoi.
Face aux collines du Rwanda, d'Ignace Fabiani, un spectacle qui sera joué au collège Valsero de Cordes sur Ciel demain après-midi. Un spectacle inspiré de ton histoire, truffé de moments musicaux, de proverbes, d'anecdotes aussi. C'est accessible à partir de 12 ans et en marge de ce spectacle, Ignace, tu as convié une amie rwandaise à toi à vous rejoindre à Cordes sur Ciel. Dans quel but ?
Alors, c'était aussi une demande du collège d'avoir éventuellement la chance pour les élèves de rencontrer une personne qui a vécu ça dans sa chair. C'est, donc moi, je le raconte en tant que témoin postérieur par ricochet des rencontres que j'ai eues. Mais elle, c'est une amie rwandaise que j'ai rencontrée là-bas à Kigali et qui maintenant habite en France depuis 2 ans. Et je lui ai proposé, je n'étais pas sûr qu'elle accepte parce qu'elle elle est vraiment rescapée du génocide. Elle est tutsi, elle a perdu son mari. Un jour, elle m'a dit, j'ai commencé à compter combien de membres de ma famille j'avais perdu pendant le génocide. Et quand je suis arrivé à 70, j'ai arrêté de compter. Donc voilà, c'est ça. Et j'avais envie que ces jeunes ils puissent avoir accès à son humanité, à son espérance, mais aussi à ce qu'elle a vraiment vécu au quotidien pendant ce génocide, quoi.
C'est un peu ça le résumé aussi de ce spectacle, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé, dans quelles conditions cela s'est déroulé, dans quelles conditions aussi, on va dire, internationales. Je parlais en introduction du silence assourdissant de la communauté internationale, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de voir et de comprendre comment est-ce qu'on se reconstruit aussi. C'est un peu ça aussi l'objet de ce spectacle.
Voilà, j'avais envie que le spectacle il soit foncièrement lumineux, parce que faire un spectacle déprimant sur le Rwanda, c'est très facile. On peut l'écrire assez rapidement et à la fin du spectacle, tout le monde a envie de se jeter par la fenêtre. Mais moi, j'avais envie que le spectacle il soit aussi à l'image de ce pays. Et ce pays, c'est aussi un pays qui renaît de ses cendres. C'est aussi un pays qui donne de l'espoir. Et donc, dans le spectacle, j'espère que les spectateurs, et a priori, les premiers retours sont bons dans cette direction-là, ils vivent ce chemin-là. C'est-à-dire ils découvrent un pays dynamique, ils plongent dans l'horreur de l'histoire et à la fin, ils remontent avec la lumière et l'espérance de cette résilience d'un pays et aussi d'individus. Et tout le spectacle, c'est pareil, c'est pas vrai, c'est pas du tout une conférence, c'est pas intellectuel, ça va vers l'émotion, vers le cœur. On suit des personnages très précis, on suit ce jeune Snoop qui apprend l'anglais en regardant des films de Bollywood, et puis un jour on découvre que, ah tiens, ses parents, ils ont participé au génocide, on se dit non, c'est pas possible, c'est pas les gens en général, non, c'est les parents de Snoop trop sympas, et ils ont participé au génocide. Et là, on touche du doigt, comme disait Hannah Arendt, que le mal, il était en chacun de nous et il peut, à un moment donné, dans un contexte donné, avec une histoire donnée, nous amener jusqu'à ça, jusqu'à un génocide et une participation populaire.
J'aimerais qu'on écoute un autre extrait de ce spectacle, un extrait qui nous parle plus de ton départ du Rwanda la première fois.
Un mois plus tard, j'aperçois Snoop tout seul dans un coin du centre Inzou. Ça fait 15 jours qu'il avait disparu. Je m'approche, il a les yeux rouges. Je lui propose qu'on aille prendre une marche ensemble. Il accepte. Au début, il dit rien. Puis, Joseph, my friend, you know, my parents, mes parents, ils ont été arrêtés. Ils sont emprisonnés dans la prison centrale de Kigali, condamnés par un tribunal pour leur participation au génocide. Comment c'est possible ? Cet homme, cette femme, tellement gentils, prévenants, accueillants, qui m'ont prêté leur lit et qui auraient participé à un génocide. Mes 15 derniers jours au Rwanda passent à toute vitesse, entre match de foot, battle de rap, visite de famille, au revoir, brochette de chèvre, bière et congé, froide, discussion nocturne, marché de Kimironjo pour l'achat de pagne, épices et fruit de la passion.
Kuyavuga siko kuyamara. On n'a pas l'état de tout se dire.
Et puis voilà, c'est le jour du départ. Snoop, j'aimerais tellement aller à l'aéroport avec tous les amis du centre Inzou. Mais comment on pourrait faire? Louer un bus? Joseph, homo sazi le fou. You know, on pourrait y aller à pied à l'aéroport. C'est qu'à une heure de marche. Une heure rwandaise ou une heure... Aussitôt dit, aussitôt fait. Vers 15h, une procession se met en route avec tous les jeunes du centre Inzou. La chorale chante et comme souvent au Rwanda, je marche main dans la main avec Snoop. Sa paume est chaude, craquelée. En chemin, il me dit « Joseph, homo sazi le fou, you know, you're a different mozungu. Parce que toi, t'as choisi de vivre comme nous. Mais rappelle-toi, Joseph, hein, que ceux qui veulent travailler dans une ONG, ils doivent avoir des grandes oreilles, des grands yeux, une grosse tête, un grand cœur, mais une toute petite bouche. »
Comme l'a dit quelqu'un là à l'instant, on n'a pas le temps de tout se dire, Ignace Fabiani. Le spectacle Face aux collines du Rwanda, ce sera au collège Valsirou de Cordes uniquement pour les collégiens. Ils ont de la chance dans ces temps Covid là de pouvoir assister à ce spectacle là demain après-midi et puis vendredi après-midi, ce sera l'occasion de parler, de discuter et d'échanger avec eux autour du Rwanda, du génocide au Rwanda et aussi comment est-ce qu'on se relève d'un traumatisme comme celui-là, tout un pays hein, finalement qui s'est relevé parce que le Rwanda aujourd'hui est l'un des pays les plus, on va dire, dynamiques en Afrique. Malgré tout le contexte politique qui n'est pas évident non plus à démêler. Ignace Fabiani, merci beaucoup d'être venu nous parler du Rwanda aujourd'hui. Le spectacle Face aux collines du Rwanda, un récit conté inspiré de ton histoire. Il dure 1h10 et nous plonge de manière drôle et émouvante dans l'histoire de ce pays. Hâte que les spectacles tout public, ouvert à tous, sans masque et dans des bonnes conditions, puissent reprendre pour qu'on ait tous l'occasion de cheminer avec toi sur les collines du Rwanda. On va se quitter avec le titre Papa Outé de Stromae, un titre aussi qui fait allusion à ce qui s'est passé au Rwanda ces dernières années. Merci Ignace.
Merci beaucoup. Murakoze, comme on dit en Kinyarwanda.
Eh bien, Murakoze aussi à toi. À suivre sur CFM Radio. Les informations dans quelques minutes, on va continuer d'écouter encore quelques mesures de Papa Outé de Stromae.
Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, 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 où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il...